Radio Kapi.
Le journal Patience Ngaloula. D'abord les titres de ce journal. Début du vote des membres du bureau définitif du Sénat ce lundi au Palais du Peuple. Deux candidats se disputent les postes du président de la Chambre haute du Parlement, notamment Jean-Michel Samalou Kondé et Jonas Moukamba. Vive tension ce matin dans la partie nord de la ville de Goma, ce après les meurtres de deux personnes ainsi que des blessés par balles tirées par des hommes armés en tenue militaire dans la nuit de dimanche à ce lundi à Kisihi, en territoire des Niragongo. Jacques Odja Moussungaï, l'inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, est l'invité de ce journal. Il revient sur la publication des résultats de l'examen d'État, édition 2024. Bonjour à toutes et à tous. Élections et installations ce lundi au Palais du Peuple de membres du bureau définitif du Sénat. Jean-Michel Samalou Kondé part favori au poste de président de la Chambre haute du Parlement. Outre sa désignation comme candidat consensuel de l'Union sacrée pour la nation, l'ancien premier ministre bénéficie désormais du désistement du candidat de l'UDPS Idrissa Afani. Il va donc faire face à la candidature de Jonas Moukamba qui a plutôt préféré maintenir sa candidature au poste de président du Sénat. Michel Kifindangoy.
Prenant la parole au perchoir du Sénat pour l'audition de son discours de campagne, le candidat d'élu d'EPES, Idrissa Afani, annonce son désistement en faveur de la candidature de Samalou Kondé.
Devant cette grande décision, je ne pouvais que m'effacer en faveur de l'honorable Samalou Kondé Kienge.
Pour sa part, Jonas Moukamba, 93 ans, met en avant-plan sa large expérience dans les affaires publiques.
Je vais partager avec vous ce qui me tient à cœur pour conduire ensemble, et cela la République. C'est ici la question de la réconciliation nationale.
Parti favori pour cette élection, Jean-Michel Samalou Kondé se montre rassurant.
Je voudrais vous rassurer que nous ferons tout notre possible pour que votre voix soit considérée. Cette ambition, je la base sur mon expérience. J'aimerais m'appuyer sur le fait que dans un passé très proche, j'ai occupé Premier ministre de notre pays. Je mets à votre service ces acquis dans notre diversité et notre pluralité. Nous nous acceptons et nous œuvrons ensemble pour le bien de nos populations.
Après différentes auditions des candidats, les sénateurs départageront les uns et les autres par un vote à bulletin secret.
Et puis, le président de l'Assemblée nationale plaide la cause des chefs coutumiers de la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe reconnaît que le pouvoir coutumier est gravement fragilisé par la boulimie des acteurs politiques du pays. Ainsi, il s'engage à faire voter des lois à l'Assemblée nationale pouvant contribuer au rétablissement du pouvoir traditionnel en RDC. Propos recueillis par Jean Kassami.
On ne peut pas prétendre de gérer la cité sans la complicité des chefs traditionnels. C'est une erreur grave que nous avons commise, nous les politiciens, uniquement dans le souci d'avoir tout pour nous et rien que pour nous et nos familles. Ici, nous avons un réel pouvoir coutumier que nous semblons fouler aux pieds avec des lois, bien sûr, que nous allons corriger au niveau de l'Assemblée nationale pour établir le pouvoir traditionnel. Nous avons connu plus de 145 attaques venant du Rwanda, repoussées par nos vaillants ancêtres et rois de l'époque, Mafondwe, 00 et les autres. La République démocratique du Congo sait très bien que toutes les hostilités qui ont endeuillé ce pays commencent par la partie est. Fizi, Baraka, Uvira, Bukavu, Goma, Ituri. C'est pas pour rien. C'est parce que ici nous avons des richesses innombrables.
Cette déclaration du président de l'Assemblée nationale est tirée de son mot de circonstance prononcé à l'occasion des obsèques du Mwami Désiré Kabaré, Roger Manizi II à Chirunga, dans les territoires des Kabaré au sud Kivu, le vendredi 9 août 2024. Persistance de la crise au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, les partis chers au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi est encore loin de mettre fin à la bataille entre Augustin Kabuya et ceux qui veulent son départ. La convention démocratique du parti convoquée par Jean-Claude Tshilumbay, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a destitué hier dimanche Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS. En réaction, les camps du concerné rejettent cette décision. Le secrétaire général adjoint Godefroy Stanislas Chimanga estime dans une mise au point que la personne ayant convoqué la convention n'a pas qualité. Michel Kifindangoy.
Après plusieurs jours de crise persistante au sein de l'UDPS, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbay, a convoqué la convention démocratique du parti qui a décidé de déchoir le secrétaire général Augustin Kabuya. Témoignage du prof André Mbata.
Je crois que c'était un grand jour qui signifie le début de la renaissance du parti. Parce que nous avons été vraiment frappés par la décision de la commission de discipline. C'était vraiment un cas de déviationnisme. L'ancien secrétaire général a tout simplement vendu le parti, il a renoncé aux idéaux. D'après ce qui a été dit, il était la somme de toutes les antivaleurs contre lesquelles nous nous sommes battus.
Qualifiant cette convention de foire de Sainte-Anne, le camp d'Augustin Kabuya déplore la désacralisation de cet organe aussi noble destiné à rassembler toute la crème intellectuelle autour des questions importantes du pays et du parti. Dans sa mise au point parvenue ce matin à Radio Okapi, le secrétaire général adjoint de l'UDPS s'est dit très révolté par la caricature de la convention démocratique du parti offerte à l'opinion avec théâtralisation d'une commission de discipline sans mandat. Godefroy Stanislas Chimanga se déclare dès ce moment au front contre les antivaleurs et surtout l'imposture.
Au Nord Kivu, une vive tension s'observe depuis ce lundi matin dans la partie nord-ouest de la ville de Goma, ce après les meurtres de deux personnes et de cinq autres grièvement blessés par balles tirées par des hommes armés en tenue militaire dans la nuit de dimanche à ce lundi. Le fait se sont passés à Kihisi, dans les villages Rukoko, en territoire de Niragongo, au nord de Goma. Les tireurs sont inconnus selon la société civile locale. Le point avec Gabriel Wamenya.
Depuis tant ce lundi matin, les populations des villages Rukoko en territoire de Niragongo et les jeunes des quartiers voisins de Majengo et Bouéné manifestent. Ils protestent contre les meurtres de deux personnes selon la société civile de Niragongo. Pour manifester leur ras-le-bol, ils ont placé des pierres sur toute la partie de la chaussée qui part du rond-point Bon Voyage jusqu'au marché du quartier voisin de Majengo en commune de Karisimbi. Toujours selon la société civile de Niragongo, le drame est survenu dans la nuit lorsque que les hommes armés en tenue militaire ont fait irruption dans un lieu de deuil au niveau de la station Toujène. Subitement, ils ont commencé à tirer sur les personnes participant au deuil. Sur place, deux jeunes sont morts et cinq autres personnes ont été blessées par balles. Pour l'instant, toutes les activités socio-économiques ainsi que les trafics urbains sur cette partie de la ville et du territoire de Niragongo restent momentanément suspendus. Les éléments de la police déployés depuis ce matin dans la zone s'emploient à dégager les barricades sur la route. Cependant, la situation reste toujours tendue entre les manifestants et la police qu'ils accusent d'inefficacité, précise la société civile. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Le territoire de Beni, toujours au nord Kivu, a une fois de plus été le théâtre des violences meurtrières. Les bilans de la double attaque des villages de Baeti et Mabuo dans la localité de Mamove s'est alourdi, atteignant désormais 18 civils tués contre 10 initialement recensés. Ces attaques survenues samedi s'inscrivent dans une vague de violences qui, selon la société civile locale, a coûté la vie à plus de 150 personnes en un mois avec des destructions matérielles considérables. La société civile exprime sa profonde préoccupation et exhorte l'armée et les gouvernements à prendre leurs responsabilités. André Kitenge pour les détails.
La double attaque est intervenue samedi dans le groupement de Batangimbao. D'après Kinos Katuo, président de la société civile de Mamove, 18 personnes ont perdu la vie et plusieurs maisons ont été incendiées. Le nombre de civils tués dans la région au cours du dernier mois s'élève désormais à plus de 150 selon la société civile. Kinos Katuo déplore également l'absence de réponse de la part de l'armée face à cette escalade de la violence.
Le bilan est revu à la hausse de 10 à 18 personnes tuées, 4 maisons incendiées, 2 motos incendiées et 14 personnes portées disparues. Ça fait au moins un mois qu'on vient d'enregistrer plus de 150 personnes tuées, plusieurs maisons incendiées, plusieurs personnes portées disparues. Ça, la réaction de l'armée. Nous avons constaté que nous sommes sacrifiés par notre propre armée et par notre gouvernement responsable.
Jusqu'à ce matin, l'armée ne s'était pas encore exprimée sur cette attaque. Bien que des troupes de FRDC aient été envoyées sur place pour traquer les assaillants, le président de la société civile de Mamové appelle les autorités militaires à renforcer davantage la présence de ces soldats. Selon lui, les rebelles des ADF circulent librement entre les villages de Beoumanyama et Mabuo dans le secteur de Benimbao. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Recrudescence du banditisme dans les territoires de Moba, province du Tanganyika. D'après la société civile locale, 8 corps sans vie ont été ramassés en l'espace d'un mois à Moba et ses environs. Le dernier cas en date est celui d'un élément de la force navale et plusieurs cas de cambriolage sont signalés. Les points avec Paulin Munanga.
Ces corps sans vie sont ramassés dans différents quartiers de Moba, comme Moba Port, Kirungu, Kakera et dans la chefferie de Kansabala, indique la société civile de Moba. Et le dernier cas en date est celui d'un élément de la force navale. Son corps a été trouvé dans la matinée de vendredi dernier sur son lieu de travail. D'après l'administrateur du territoire de Moba, la victime était garde du corps d'un officier de FRDC. L'autorité du territoire ajoute que la victime avait des traces de blessures sur son corps. Victor Kanfoy annonce l'ouverture d'une enquête pour déterminer l'origine de sa mort. De son côté, la société civile signale que plusieurs maisons d'habitation sont visitées par des malfrats. Dans la nuit du 9 au 10 août dernier, des bandits portant des armes blanches ont cambriolé plusieurs maisons au quartier Mobaport et Kirungu. Face à cette situation, le coordonnateur de la société civile de Moba, Léon Tabou, demande aux autorités locales de sécuriser la population et ses biens. L'administrateur du territoire de Moba annonce que 3 présumés bandits sont aux arrêts depuis samedi. Kalemi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Dans la province du Bas-Ouélé, une forte délégation de l'OMS en collaboration avec le ministère national de la Santé est arrivée hier à Bouta. Elle est composée de plusieurs experts venus pour mener des investigations par rapport au cas suspect de la fièvre hémorragique d'Ebola. Ceux-ci ont été apportés dans quelques entités de cette juridiction avec mort d'homme. Les points avec Jacques Moukonkolé.
Ces cas suspects d'Ebola avec mort d'homme ont été rapportés d'abord à Doulia et à Likati et par la suite à Bondo. En dépêchant des experts multisectoriels à Bouta, l'OMS et le ministère de la Santé veulent mieux cerner et circonscrire cet événement de santé publique, comme l'explique Diallo Amadou Mouktar, responsable de programme des urgences à l'OMS RDC et chef de la délégation.
C'est dans le cadre d'appui à l'investigation de ces cas suspects qui nous ont été notifiés avec des malades que nous sommes immédiatement déployés pour accompagner la province, l'autorité provinciale, pour renforcer la coordination de la réponse, aider toutes les autorités à investiguer pour comprendre de mieux de quoi il s'agit, de quoi les gens tombent malades, pourquoi ils meurent.
Cette délégation n'est pas venue les mains bredouilles à Bouta. Elle a aussi acheminé des médicaments et du matériel, lequel sera remis non seulement au personnel qui travaille dans les structures sanitaires, mais aussi pour le renforcement des capacités de la prise en charge des autres maladies courantes qu'on y trouve. Par ailleurs, la délégation se félicite de l'appui financier du gouverneur des provinces du Bas-Ouélé, Mike David Mokeni, qui a facilité le déploiement du personnel sur le terrain. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Célébration ce lundi 12 août de la Journée mondiale de la jeunesse. Au Maniema, l'ONG Rien sans les jeunes, aujourd'hui et demain, appelle tous les jeunes à une conscience responsable pour l'émergence du pays. Dans son message, son coordonnateur national exhorte la jeunesse congolaise à cultiver la paix et le développement durable. On écoute les coordonnateurs nationaux de cette structure, Mwalu Mukakanga Kangakolo Uyumi Luizon, au micro de Florence Kizalunga.
À l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse célébrée ce lundi 12 août, nous félicitons tous les jeunes congolais pour leur engagement et détermination à œuvrer pour la paix et le développement de notre cher et beau pays. Chers jeunes congolais, vous êtes une couche de la population non négligeable. Vos compétences et talents sont plus que nécessaires pour le présent et futur du pays de Lumumba et de tous les héros qui ont sacrifié leur jeunesse pour l'émergence de ce pays. La célébration de cette journée est une occasion de nous remettre sur les rails, de construire ensemble une paix durable et booster le pays vers son développement voulu par plus d'un jeune averti et conscient du rôle de la jeunesse dans notre pays. Encourageons la paix et le développement en disant non aux antivaleurs pour l'intérêt supérieur de la République. La paix commence avec vous et moi. C'est possible que le Congo change son image avec une jeunesse avertie et consciente. Que Dieu bénisse la jeunesse congolaise et ses dirigeants.
Tout autre chose, il n'est plus question pour les enseignants de s'absenter en classe pendant plusieurs semaines pour aller toucher leur salaire. Une cartographie des enseignants des écoles qui sont éloignées des agences bancaires sera présentée dans les banques payeuses pour qu'elles s'approchent elles-mêmes des enseignants. Ceci est l'une des dispositions arrêtées à l'atelier d'évaluation de la feuille de route de la Direction nationale du contrôle et de la paie des enseignants du Congo. Cet atelier s'est tenu dans la province éducationnelle du Congo Central 2 en territoire des Mbanzangungu dans la province du Congo central. Il a regroupé les cadres et les 6 chefs d'antenne du service des payes des enseignants. Ces cadres ont permis d'analyser les objectifs atteints ou non assignés au début de l'année et a donné des orientations pour perfectionner les travaux sur les terrains. La directrice nationale du contrôle des payes des enseignants, Nelly Bompongo, explique la mise en œuvre de cette nouvelle disposition de la paye des enseignants. Nous allons la suivre dans nos prochaines éditions d'information.
Actualité internationale.
Jeux olympiques 2024, l'Afrique décroche 39 médailles et marque l'histoire. Alors que les Jeux olympiques de Paris ont été clôturés dimanche 11 août, les 54 pays d'Afrique présents ont pu décrocher 39 médailles au total, soit deux fois de plus qu'à Tokyo en 2021. Si beaucoup de ces médailles ont été glanées en athlétisme, il y a aussi des surprises, notamment au sprint grâce au Botswana.
L'invité.
Jacques Odia Musungayi, l'inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, est l'invité de ce journal. Avec lui, nous parlons de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2024. Cette publication se poursuit sans désemparer à travers tous les pays. Pour Jacques Odia Musungayi, toutes les batteries sont mises en marche pour améliorer l'organisation de cette épreuve certificative nationale. Il reconnaît cependant qu'il y a encore trop de failles et que le chemin reste encore long pour tout parfaire. Jacques Odia Musungayi s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Monsieur l'inspecteur général, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
La publication de l'examen d'État se poursuit. Si on peut faire un bilan, quels ont été les points forts et les points faibles qu'il faut peut-être améliorer pour cette année?
Je crois que ce n'est pas encore le moment. Il faut attendre la fin de la publication. Mais à mi-parcours, il est...
Bilan à mi-parcours, justement.
À mi-parcours, oui, c'est possible de vous dire qu'on avance, tant bien que mal. Mais comme les auditeurs vous l'ont dit, ils sont un petit peu satisfaits par rapport aux années antérieures. Je m'en félicite, mais je ne peux pas rester à ce niveau-là de recevoir des félicitations parce que ça s'est amélioré. Il faut aller au-delà. Il y a encore beaucoup de failles. Il faudrait colmater toutes ces brèches-là et aller de l'avant. Voilà ce que je peux dire. Pour le moment, ça va encore. Nous évitons ce que les gens ont appelé les années antérieures, l'année passée particulièrement, deuxième publication, deuxième session. Beaucoup de qualificatifs, beaucoup de dénominations.
Donc, j'espère que cette fois-ci, ça n'aura pas lieu.
Nous sommes en train de nous efforcer pour ne pas en parler, pour mettre vraiment cela dans la poubelle de l'histoire. Et voilà.
Ok, merci. Monsieur l'inspecteur, chaque année, on a l'habitude d'entendre la grogne hein, de correcteurs, ouais. Des correcteurs, mais cette fois-ci, on n'a pas entendu parler de ça. Est-ce que le problème est résolu cette année?
Et pas entièrement, mais il y a déjà un effort. Il faut remercier le gouvernement de la République qui s'est impliqué. On paye déjà les intervenants, tenant suspect, hors session, on y va. Mais il y a encore des petits soucis, mais qui, d'ici là, seront complètement...
Non, des planis. Soucis qui ne sont pas majeurs, qui ne peuvent pas...
Oui, on y va.
Porter atteinte.
Ah, quelqu'un qui attend ses 200 francs, mais ouais. Ça fait un mois, deux mois, ça ne vient pas. Ça fait ce que vous appelez la grogne, cela est vrai. Mais l'effort est là et il y a accalmie. Je n'ai pas senti, comme par le passé, cette volonté de bloquer les choses, bloquer la machine. Ça va jusque là. Mais il y a des années qui ne sont pas encore payées, antérieures, 2015, 2017, 2020, ainsi de suite. On continue à lutter, mais je crois que ça va se résoudre. Ce côté-là, ça va.
Est-ce que l'examen d'État a aussi eu lieu dans les zones sous contrôle de la rébellion?
Oui, oui, il faut
comment
le reconnaître.
Comment ça s'est passé?
Ah ben, vous les avez appelés comment?
Les rebelles M23 okay. ou autres.
Les épreuves ont eu lieu dans tous ces coins-là. Mais j'ai rappelé, Nord Kivu, il y a un coin où il y avait bruit de bottes. Les élèves se sont dispersés, c'était le dernier jour des épreuves. Ils n'ont pas pu attendre et l'épreuve n'a pas eu lieu ce jour-là, dans ce centre-là. Mais en général, ça s'est bien passé, presque dans l'ensemble du pays. Mais il ne faut pas parler des cas isolés. Vous pouvez trouver 3-4 candidats qui ne se présentent pas dans la salle d'examen pour une raison ou une autre, ça c'est autre chose. Mais de façon générale, tout un centre, toute une province, eh bien non.
Justement, je voulais savoir, il y a eu des enfants qui n'ont pas pu présenter l'examen d'État pour diverses raisons, soit l'insécurité, soit manque de moyens. Quel est le sort de ces enfants-là?
Le sort est déterminé par le jury de délibération. Et que les problèmes ont été posés parce que nous avons des rapports de tous ces centres et des passations. Et le jury a pris une décision là-dessus. Il nous appartiendra de vous dévoiler ce secret-là le dernier jour de publication, pas aujourd'hui, parce qu'on dit jury des délibérations. On ne publie pas de cette manière-là. Mais les dispositions sont prises à l'avantage du candidat. Parce que là, ce n'est pas lui le responsable de son absence dans la salle. Mais lorsqu'un enfant est malade, lorsqu'un enfant fuit lui-même pour une raison ou une autre, à ce moment-là, il écope zéro. C'est fini. Mais pour ce coin-là, on a pris des dispositions. Dans les années antérieures, on organisait des sessions spéciales pour des cas pareils. Comme c'est un petit coin, et quelques candidats, vous imaginez, une centaine, si pas deux bonnes centaines, sur les 900, sur un million de candidats, vous voyez qu'organiser une session spéciale, ce n'est pas facile. Et puis, ce n'est pas non plus à l'avantage de ces enfants qui passent leurs épreuves sous stress. Imaginez-vous, il y en a qui se sont déplacés sur 100 km et vous leur demandez de revenir aujourd'hui pour une autre session. Je crois que c'est les traumatiser davantage. Mais nous prenons des dispositions réglementaires, pédagogiques. Vous avez été élève. Si vous n'avez pas participé à un examen tel jour, donc qu'est-ce qu'on fait de vous? Ce n'est pas le moment d'en parler. Mais nous disons, dans l'ensemble, les mesures ont été prises à l'avantage des candidats. Des candidats qui se sont bien comportés aussi. Hein. C'est-à-dire qui ont répondu des questions comme il se doit. Ne dites pas, parce que je suis de ce coin-là, moi, je n'ai pas répondu parce qu'hier, je n'ai pas mangé et alors on me donne 60%. Alors là, non, ça c'est autre chose.
Jacques Odia Musungai, inspecteur général de l'éducation et nouvelle citoyenneté, merci beaucoup.
Merci, merci.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition d'information. DEPS Vital a mis en onde pour vous sous la supervision et coordination de Pelekipe Lamondo et Blaise Shindani Kambala. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous tous de l'avoir suivi.